Je vous présente maintenant le conférencier de ce soir. Il s'agit de Léon van der Merch, qui est sinologue. Il est né en 1928. Il est directeur d'études à l'école pratique des hautes études, 5e section, la section des sciences religieuses. Je vous donne une indication de son parcours. De 1951 à 1954, il a été professeur de lycée à Saïgon et à Hanoï. Il a été membre scientifique de l'école française d'Extrême-Orient. Vous le verrez d'ailleurs dans sa bibliographie. Puis, il a été maître de conférences, professeur et, à l'université d'Aix-en-Provence et de Paris 7. Et enfin, directeur d'études de langues et civilisations chinoises. De 1979 à 1993, il a été donc à l'école des hautes études, à l'école pratique des hautes études. En même temps, de 1980 à 1984, il a été directeur de la maison franco-japonaise de Tokyo. Et de 1989 à 1993, il a été directeur de l'école française d'Extrême-Orient. Il est correspondant de l'Institut de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Ses spécialités sont l'histoire de la culture chinoise en Chine et dans les pays sinisés, et il a notamment travaillé sur le problème du droit et des rites en Chine. Ce sera le sujet de la conférence de ce soir. Il est l'auteur d'une centaine d'articles de sinologie et d'études extrême-orientales dans des revues savantes françaises et étrangères. Il a publié un certain nombre d'ouvrages. Je redonne quelques indications, vous les retrouverez sur les sites internet. Les miroirs de bronze du musée de Hanoï, école française d'Extrême-Orient, diffusée par Maisonneuve, 1960. La formation du légisme, recherche sur la constitution d'une philosophie, école française d'Extrême-Orient, 1965. Le monde sinisé, le nouveau monde sinisé, pardon, aux presses universitaires de France, 1986. Études sinologiques, presse universitaire de France, 1993. Et enfin, un ouvrage collectif, La société civile face à l'État, dans les traditions chinoises, japonaises, coréennes et vietnamiennes, ouvrage de 1994, publié par l'École française d'Extrême-Orient et diffusé par Maisonneuve. Je vais donc laisser la parole maintenant à Léon van der Merch pour nous parler de droit et rites en Chine pendant une cinquantaine de minutes, et puis ensuite il répondra à vos questions. Je vous remercie.
Merci. Bonsoir à tous. Je vais donc vous parler des rites et du droit en Chine. Je vais le faire dans une perspective d'ensemble sur la culture chinoise, en essayant de dégager ce qu'il y a de spécifique dans ce que recouvrent ces deux termes, s'agissant de cette culture, et en insistant plutôt sur les rites, puisque ce sont les rites qui me paraissent caractériser le mieux dans ce domaine, précisément la culture chinoise. Il y a 10 ans, dans l'une des plus prestigieuses revues d'idées chinoises, 21e siècle, publiée à Hong Kong sous l'autorité d'un comité éditorial composé de grands intellectuels chinois de tous les coins du monde, un chercheur de l'Académie des sciences sociales de Pékin, nommé Wang Yi, s'interrogeait sur les collusions entre intellectuels et voyous dans le présent et le passé de la Chine. Il se demandait comment n'y avaient pas fait rempart les constituants caractéristiques de l'armature de la société civile chinoise. Et il énumérait dans l'ordre, c'est cela qui m'intéresse, les rites et le sentiment de la face, la garantie morale d'un minimum vital de moyens de production, l'organisation des relations interpersonnelles suivant les règles du culte des ancêtres et le recrutement des fonctionnaires par les concours mandarinaux. Très significatif est ici le fait que soit cité en premier lieu comme clé de voûte de l'ordre social chinois traditionnel, non pas le droit, mais les rites. Et que le droit, ensuite, soit même purement et simplement passé sous silence. Cette importance exceptionnelle des rites est tout à fait caractéristique de la société traditionnelle chinoise. Elle remonte à la formation de cette société et elle est au cœur de la doctrine confucianiste. Voyons donc ce qu'en dit Confucius. Je cite. Les rites, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui met de l'ordre dans ce qu'on fait. Quand l'homme de bien agit, il ne manque pas de le faire suivant l'ordre qu'il faut. Ordonner l'État sans rite, ce serait être comme un aveugle qui ne voit pas la forme des choses et qui divague sans savoir quoi. Sans rite, il n'y aurait plus de distinction entre les jeunes et les vieux, plus de bonne entente entre les diverses branches des parentés par le sang et par alliance, plus de hiérarchie dans l'administration gouvernementale, plus de discipline dans la chasse et les exercices militaires, plus de règles dans les expéditions armées et la conduite de la guerre, plus de mesures dans les travaux publics, plus de modèles dans la fabrication des ustensiles. On mangerait sans se soucier de ce qui convient à la saison. La musique serait déréglée. Les voitures ne seraient plus adaptées aux voies de circulation. Les esprits ne recevraient plus leurs offrandes. Le deuil ne serait plus accordé aux différents degrés d'affection. Les propositions politiques ne seraient plus pesées selon les attaches partisanes de leurs auteurs. La fonction publique ne serait plus structurée. Les affaires de l'État ne seraient plus gérées. Les intérêts personnels seraient placés au-dessus de tout et on ne reconnaîtrait plus les vraies priorités. De façon générale, le sens du devoir serait perdu dans toutes les activités sociales et donc il n'y aurait plus aucun principe qui permette de faire régner l'ordre social entre tous. Fin de citation. On voit par ce texte que si, dans la tradition chinoise, les rites effacent le droit, c'est que ce sont eux, et non les principes du droit, qui, dans la pratique politique relevant de cette tradition, ont été organisés de manière à assurer la fonction de régulation de l'ensemble de la vie sociale. Comment cela se peut-il ? Par le montage d'un mécanisme régulateur dont on comprendra mieux le fonctionnement en le comparant à celui des systèmes juridiques. Dans les deux cas, il s'agit de montage de formes qui, appliquées aux actes des personnes, moulent ces actes dans des modèles qui ne leur laissent de jeu que dans le cadre de l'ordre social déterminé par les institutions. La formalisation est, dans les deux cas, le détour qui permet d'objectiver la volonté des acteurs sociaux pour pouvoir la placer sous l'emprise de l'ensemble des règles institutionnelles, lesquelles sont des règles objectives, ce qui les distingue des règles purement morales. Entre les rites et le droit, la différence, c'est que, tandis que la forme juridique est conçue pour s'appliquer à l'acte, acte par exemple d'acquérir ou de transmettre un bien, acte d'épouser un conjoint, acte de s'engager dans une entreprise, etc., au moment où cet acte s'accomplit sur un objet réel. La forme rituelle, elle, est conçue pour s'appliquer à des comportements qui n'ont pas d'autre objet que leur forme elle-même. Par exemple, le comportement du fils devant son père, celui de l'épouse devant l'époux et de l'époux devant l'épouse, celui du maître de maison devant son hôte et de l'hôte devant le maître de maison, etc. Ainsi, la forme juridique est la forme d'un acte effectif, alors que la forme rituelle est la forme d'une forme d'acte, une forme au second degré. D'une autre façon, nous dirons que l'acte juridique est un acte plein, chargé de son objet, et que l'acte rituel est un acte vide, un acte de pure forme. Comment donc ce mécanisme d'acte vide, de pure forme, peut-il agir ? Le mécanisme des formes rituelles a pour pièce principale les cérémonies codifiées, ce que les textes appellent les rites canoniques, qui ont été institués dans tous les domaines d'activité pour y mettre en vedette dans de purs exercices d'étiquette à vide, les formes canoniques de comportement exprimant les principes de l'ordre social. Les traités classiques distinguent 5 catégories de cérémonies codifiées. Celle du culte, principalement du culte des ancêtres, celle des liturgies funéraires, celle des protocoles d'entrevue de toutes sortes, celle des protocoles militaires, à la guerre ou à la chasse, et celle des fêtes familiales et sociales. Sur le modèle des rites canoniques, était calqué dans la vie courante ce que les textes appellent les rites circonstanciels, c'est-à-dire les formes de comportement convenant à toutes les circonstances ordinaires de la vie. La forme des rites était, de cette manière, systématiquement inculquée aux acteurs sociaux au niveau des rites canoniques pour être spontanément généralisée au niveau des rites circonstanciels à toutes les pratiques sociales. Cette forme est traditionnellement comparée à la chaussure dont la forme maintient le pied pour assurer la marche, de même que les rites guident dans la bonne conduite les actes qui ont été préconditionnés par les comportements rituels. Toute la philosophie du ritualisme chinois, savamment développée à toutes les époques, dans une abondante littérature de commentaires des rituels canoniques, revient à ceci, que le moule de la bonne conduite, s'il est suffisamment renforcé par la pratique bien suivie de toutes les cérémonies codifiées, empêche les mauvaises actions. Un lieu commun des traités sur les rites est le parallèle entre les rites et la musique. La musique touche l'âme et incite de l'intérieur aux belles actions, tandis que les rites, eux, disciplinent le comportement extérieur et agissent par contre du dehors en entraînant l'intériorisation de la bonne conduite qu'ils figurent extérieurement. Mais que les rites ne touchent que le comportement extérieur ne signifie en aucune façon que l'intention y importe peu. Bien au contraire, les textes canoniques soulignent à l'envi que l'exécution des gestes rituels n'a aucune valeur si elle n'est pas sincère, tout autant que pour nous un acte juridique est nul s'il ne correspond pas à l'intention du sujet agissant. Mais la différence avec le formalisme du droit est ici que le formalisme des rites agit en sens inverse du formalisme juridique. Celui-ci, en effet, intervient après que la décision d'agir est prise pour imposer à l'acte à effectuer la forme requise. Celui-là, le formalisme des rites, conditionne d'avance les façons d'agir de telle façon que les actes effectifs, ce que j'ai appelé les actes pleins, se coulent ensuite spontanément dans la bonne forme. Le point essentiel est ici la raison pour laquelle le formalisme purement extérieur des rites peut avoir assez de force pour transformer la personne jusqu'à orienter ses conduites dans le sens recherché. La raison, c'est que cette force, les rites la tirent de leurs racines religieuses. Le mot chinois qui désigne les rites signifie étymologiquement libation. Mais la libation était ce qu'il y avait de commun à toutes les catégories de cérémonies religieuses, de telle sorte que par métonymie, le mot a fini par signifier le cérémonial religieux lui-même tout entier. Or, ce qui caractérise l'ancienne religion chinoise, c'est que, primitivement de nature animiste, elle s'est très tôt purgée de tout esprit théologique pour se convertir en cosmologie. Le souverain d'en haut est devenu le ciel. Ses volontés sont devenues la dynamique du yin et du yang, s'exprimant dans les cinq éléments dont sont formés les 10 000 êtres de l'univers, etc. Mais dans cette transformation, toutes les cérémonies du culte se sont conservées. Ainsi, a continué de se célébrer au solstice d'hiver un grand sacrifice au ciel et à la terre. Ainsi, ont continué de se pratiquer aux jours anniversaires des décès, les offrandes aux mânes des défunts, et ainsi de suite. Mais ces cérémonies ont perdu leur sens transcendant pour devenir purement rituels. Pourquoi donc les avoir conservées comme rites sans plus d'efficacité transcendante? Justement pour conserver ce qui était leur efficacité sociale. Dans les mémoires sur les rites, au chapitre 32, sont opposés les Yin, dynastie de la fin du deuxième millénaire, sous laquelle les pratiques religieuses sont encore profondément animistes, et les Zhou, qui succèdent au rite et sous lesquels va se développer le ritualisme. Voici ce que dit ce passage. Les Yin observaient la loi des esprits, gouvernaient leur peuple par la religion, se préoccupaient avant tout des forces transcendantes et ne se souciaient des rites qu'incidemment. Les Zhou révéraient les rites et les ont mis au plus haut en honneur, ne se livrant au culte des puissances transcendantes et à la vénération des esprits que de très loin. Dans le même recueil, au chapitre 25, est évoqué en ces termes l'efficacité sociale des rites. Je cite, « Qu'il y ait une cérémonie dans le temple des ancêtres et tout le monde se trouvera placé de chaque côté dans des positions marquant sans défaut toutes les relations sociales entre les uns et les autres. » Il y a là un exemple du modèle de ce que sont les rites pour les comportements habituels. Je citerai encore ce passage, toujours du même recueil. De façon générale, ce qui fait que les hommes sont des hommes, c'est la ritualité. Là où commence la ritualité, c'est dans la rectitude du maintien, dans la modération des expressions de physionomie, dans la politesse du discours. Quand le maintien est correct, quand les expressions de physionomie sont modérées, quand le discours est poli, alors la ritualité est parfaite. Et par là se font justes les rapports entre prince et sujet, se font affectueux les rapports entre père et fils, se font conciliants les rapports entre aîné et cadet. Ce que ce dernier texte appelle la ritualité, c'est au fond, mutatis mutandis, ce qu'est pour nous la civilité, dont la disparition est aujourd'hui si péniblement ressentie dans les sociétés occidentales. Le ritualisme chinois lui donne une dimension et une force inconnues dans les autres cultures parce qu'il la fait sourdre du sentiment religieux. Mais comprenons bien qu'il s'agit de tout autre chose que de l'exploitation au plan profane des rites religieux pour leur efficacité surnaturelle, comme par exemple dans l'emploi civil du serment. Ce dont il s'agit, c'est du détournement systématique de tous les rites religieux, par mise entre parenthèses de leur finalité transcendante, pour ne retenir que leur finalité sociale. À son disciple Tselou, qui lui demandait comment servir les esprits, Confucius répond que le problème n'est pas de servir les esprits, mais de gérer les affaires humaines. Devant la religion, le confucianisme défend une attitude qui n'est ni celle de la foi, ni celle de l'agnosticisme ou de l'athéisme. Il fait simplement abstraction de la transcendance pour ne considérer que la valeur sociale de la pratique religieuse. C'est pourquoi l'évolution des rites n'a pas entraîné, comme dans le cas du droit, leur laïcisation. Toutes les cérémonies religieuses anciennes ont été maintenues jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, moyennant les adaptations nécessaires. Et vous pouvez encore admirer à Pékin aujourd'hui le magnifique Temple du Ciel, construit en 1420 et reconstruit en 1890 après un incendie qui l'avait détruit. Ces cérémonies ont même été augmentées de toutes les cérémonies bouddhiques ou taoïstes qui, par leur dimension sociale, pouvaient s'apparenter aux cérémonies confucianistes, les autres tombant sous le coup de la répression des hérésies. Le conditionnement du comportement par les rites à partir de l'intériorisation de l'expression rituelle des devoirs sociaux est remarquablement expliqué au début du chapitre 24 des Mémoires sur les rites, sur l'exemple des rites de la cérémonie d'offrande à un parent défunt comme expression à intérioriser de la piété filiale. Je cite « Celui qui était assujetti à la cérémonie commençait par faire retraite et abstinence, d'abord en privé puis en public. Pendant les jours de cette retraite, il méditait où et comment celui qu'il allait vénérer passait sa vie, comment il riait et parlait, ce qu'il voulait et ce qu'il désirait, ce qui le réjouissait et ce qu'il savourait, de telle sorte qu'au bout de 3 jours, il avait la vision de celui pour la vénération de qui il faisait retraite. Le jour de la cérémonie d'offrande, entrant dans la salle de la cérémonie, c'était comme s'il voyait le défunt à la place de sa tablette funéraire. Dans tout son parcours rituel, du dehors, on apercevait l'officiant profondément ému, comme s'il voyait et entendait l'apparence et la voix de celui qu'il vénérait. Et à l'issue de la cérémonie, hors de la salle, il gémissait encore comme s'il entendait toujours les soupirs de celui qu'il avait vénéré. On voit que le sens du rite n'est pas de faire appel surnaturellement à un défunt présent dans l'au-delà, mais de faire incarner de la façon la plus profonde dans son deuil les sentiments de la piété filiale par celui qui, socialement, devait en donner l'exemple. Mais les rites n'agissent pas seulement intérieurement sur la psychologie de ceux qui les observent. Plus la société est ritualisée, plus s'exerce sur chacun une forte pression sociale dans le sens de l'observance des rites. En effet, l'extériorisation de la forme de tous les rapports sociaux donne une très forte prégnance au sens de la honte, autrement dit, au sentiment de la face de la personnalité sociale. Sentiment de la face qui est si caractéristique des sociétés confucianisées. Quand le bon ordre est assuré par les rites, dit Confucius, le sentiment de honte règne et la règle est respectée. Ainsi, si le ressort du juridisme est l'intérêt canalisé en droit subjectif, le ressort du ritualisme est la pression sociale qui s'exerce à travers la crainte de perdre la face. Le sentiment de la face est d'ailleurs lié au sens d'une valeur qui est l'essence même du formalisme rituel, le respect. toujours dans les mémoires sur les rites, au chapitre 21, on lit que ce qui résulte de la discipline des attitudes par l'application des rites, c'est le respect. Et que c'est du respect que résulte le prestige. Autrement dit, le respect qu'on inspire est à la mesure du respect qu'on témoigne. Tout comportement rituel est respectueux, quelle que soit la place dans la hiérarchie sociale de celui à qui il s'adresse. Et c'est en reconnaissant la dignité d'autrui qu'on acquiert sa propre dignité. Reste que la pression sociale n'a jamais suffi, même dans la société la plus profondément ritualisée, à empêcher que ne se commette aucun acte contraire à l'ordre social. De tels actes ont toujours été sanctionnés en Chine par la loi pénale, dont le ritualisme chinois n'a jamais nié la nécessité. Comme l'indique un autre recueil sur les rites, celui dit de Tai l'Ancien, du 1er siècle avant notre ère, les rites sanctionnent par avance, la loi sanctionne par après. Cela veut dire que celui qui n'accomplit pas les rites comme il faut perd la face dès le moment du simple comportement inconvenant qui exprime le manquement au rite, avant l'acte mauvais que fait présager la faute rituelle, tandis que le châtiment sanctionnera l'acte mauvais après qu'il aura été exécuté. Cette sanction pénale intervient à l'encontre de ceux que les rites ne guident plus. Quand on a perdu le sens des rites, on tombe sous l'emprise des châtiments, déclare un préfet de police de la fin du 1er siècle de notre ère. Dans la Chine ancienne, la loi pénale, censée avoir été instituée pour soumettre les barbares au fils du ciel, est appliquée au peuple considéré comme inaccessible à l'intelligence des rites, mais aussi à ceux des membres de l'aristocratie dont les méfaits constituent une forfaiture par rapport à l'ordre rituel. Les deux premières codifications de la loi pénale, en 536 avant notre ère, dans la seigneurie de Zheng, et en 513 de notre ère, dans celle de Qin, ont fait date tant elles ont choqué les défenseurs de la tradition ritualiste, parmi lesquels, à cette époque, se trouvait Confucius lui-même. À la fin de l'époque pré-impériale, au cours des deux siècles de la période dite des royaumes combattants, qui va de 476 à 221 avant notre ère, la recrudescence des désordres a conduit une école de penseurs politiques opposée aux confucianistes, celle des légistes, à préconiser le rejet total du mécanisme des rites et l'application exclusive d'une loi pénale rendue plus efficace par l'aggravation de la sévérité des châtiments et étendue à toutes les couches de la société, y compris la plus haute aristocratie, comme à toutes les dimensions, comme à toutes les dispositions, pardon, arrêtées par les autorités de l'État, même les plus insignifiantes. L'idée étant que plus la loi serait sévère et plus elle toucherait la totalité de ce qui lui est soumis, moins il y aurait d'infractions à la loi. C'est là le régime draconien qui fut appliqué à toute la Chine durant la première dynastie impériale, celle des Qin, de sinistre mémoire, de 221 à 207 avant notre ère. Il s'ensuivit dès la mort du premier empereur, celui dont le tombeau pharaonique fut placé sous la garde de l'immense armée de terre cuite que l'on peut voir aujourd'hui aux environs de Xi'an. Donc, dès la mort de Qin Shi Huangdi, un soulèvement général aboutit au renversement du pouvoir et à la mise en place au renversement du pouvoir en place et à la fondation d'une nouvelle dynastie, celle des Han, qui dura de 206 avant notre ère à 220 de notre ère, donc plus de 4 siècles. Les Han abolirent la loi des Qin et rétablirent une loi pénale d'application limitée aux crimes et délits définis dans un nouveau code pénal. Dans le même temps, la transformation de la Chine préimpériale, dont la structure politique était féodale, en empire fonctionnarial, avait entraîné l'effacement de la coupure entre l'ancienne aristocratie et le reste de la population. Dans ces conditions, le mécanisme d'hérite, remis en marche sous l'influence du confucianisme restauré, engraina désormais sur toutes les couches sociales. Depuis lors, et jusqu'à la fin du régime impérial en 1911, ce sont les deux mécanismes des rites au niveau des conduites de la civilité et de la loi pénale au niveau des déviances à réprimer qui resteront conjointement les deux instruments spécifiques de la régulation de l'ordre social. Toutes les dynasties ont eu un ministère des rites et un ministère des châtiments. Et toutes ont apporté en leur temps, à chacun de ces deux instruments, des rites et de la loi pénale, les perfectionnements qu'elles jugeaient appropriés. Cependant, échappait au double mécanisme rituel et pénal une très importante catégorie de relations sociales, les relations économiques. Dans la Chine ancienne, où ces relations étaient rudimentaires, il pouvait suffire qu'elles soient indirectement régulées à travers les rapports féodaux, eux-mêmes très ritualisés. Mais par la suite, l'apparition de formes beaucoup plus sophistiquées de l'économie provoqua la mise en place de tout un système de règles propres à assurer le bon fonctionnement des rapports économiques. L'extension de la propriété et l'essor du commerce entraînèrent le déploiement de plus en plus large et de plus en plus prégnant de ce système. Du seul fait cependant de l'autodéveloppement des pratiques coutumières, sans que l'État n'y intervienne en rien, sinon marginalement, au plan fiscal et au plan pénal. Ainsi s'est constitué en Chine, en dehors des rites, un véritable droit privé qui n'en avait pas le nom. Ce droit a naturellement des particularités liées aux caractéristiques de l'histoire de l'économie chinoise. Par exemple, la propriété des terres n'étant apparue que très tardivement en Chine, seulement à la fin de l'époque préimpériale, vers le IVe siècle avant notre ère, et différents systèmes de redistribution des champs aux paysans s'étant maintenus jusqu'à l'époque des Tang, jusqu'à la fin du VIIIe siècle, le droit de propriété sur la terre n'a jamais eu le caractère absolu qu'il a acquis très tôt en Occident. Et même, on a vu apparaître au XVIIe siècle une sorte de feuilletage du droit du propriétaire entre le propriétaire du fond et le propriétaire de la surface qui est appelée en chinois la peau de la terre, et on trouve même des exemples de trois couches de propriété superposées. Le propriétaire de la surface payant un loyer au propriétaire de l'interface du milieu, lequel paie lui-même un loyer au propriétaire du fond, chacun jouissant néanmoins d'une pleine propriété en ce sens qu'il est libre de la revendre sans avoir à obtenir l'accord des autres. par exemple encore, la coutume chinoise de faire toujours intervenir dans les transactions immobilières un intermédiaire appelé tiers ou témoin ou observateur ou caution ou de tout autre nom, portant la responsabilité de garantir la transaction, me paraît venir sans doute du besoin de suppléer à l'insuffisance du rôle des pouvoirs publics qui se désintéressaient de ce qui n'était ni rite ni loi pénale. Cela étant, ces pratiques chinoises n'avaient rien à envier pour la pertinence à leur objet, pour l'inventivité, pour la subtilité au droit européen. Mais jamais le pouvoir impérial n'a jugé utile de les codifier, ni aucun des grands penseurs politiques chinois n'a jugé intéressant d'en traiter. Elles sont restées de simples sous-produits de la coutume, sans appellation propre, sur lesquelles nous renseignent seulement des mentions diverses, éparses dans les encyclopédies, et des documents d'enregistrement retrouvés archéologiquement, heureusement en assez grand nombre, notamment dans des tombes Han et dans des caches d'archives à Twenrong et à Turfan. Comme en Occident, le fondement de cet authentique droit chinois innommé est le contrat. Et c'est précisément ce qui explique pourquoi il n'a jamais été regardé comme un instrument de l'ordre social digne d'être classé au niveau des rites. En Occident, le droit a été élevé d'autant plus haut dans l'idéologie sociopolitique que le rejet de la conception théologique de la légitimité du pouvoir a conduit à rechercher dans le contrat social la clé de voûte de la construction de la société. Exalté à la hauteur des droits de l'homme, le droit est dès lors devenu le pilier de la philosophie politique occidentale. Dans la tradition chinoise, la relation contractuelle pouvait d'autant moins être considérée comme susceptible d'armer valablement le lien social qu'elle est essentiellement liée au commerce et que dans l'idéologie dominante, la profession commerciale a toujours été placée tout au bas de l'échelle sociale. La culture rituelle restée prévalente en Chine jusqu'à la fin de l'Ancien Régime est une culture où la relation sociale a pour modèle les relations de parenté et avant tout la relation du père et du fils qui fondent les rapports humains non pas sur le sens de l'égalité entre co-contractants, mais sur le sens du respect mutuel entre personnes de la même famille. Assurément, la culture rituelle et la culture juridique ne sont pas incompatibles. À preuve, la symbiose de l'éthique néo-confucianiste et de l'éthique marchande qui a dominé les mœurs dans les guildes professionnelles chinoises sous les Ming et sous les Qing. Mais lorsque l'Ancien Régime a basculé, la situation relative du droit coutumier et des rites officiels s'est renversée sous l'influence occidentale. Le droit, jusque-là hors code, a commencé de faire l'objet de codifications, tandis que les rites, désormais déclassifiés, sont tombés dans le domaine des mœurs non codifiées, ce qui n'a pas empêché leur survie dans ce qu'il reste de très vivace de la culture sociale traditionnelle chinoise. Il suffit d'assister aux cérémonies de Nouvel An dans une famille chinoise pour s'en apercevoir. Le premier code chinois de droit privé est promulgué à la veille de la chute de la dernière dynastie impériale en 1911 sous le titre de « Législation sur les affaires du peuple », ce qui deviendra le nom chinois du droit civil. Sa compilation avait commencé dans le cours des réformes de la période de rénovation avortée dite des 100 jours de 1898. Cette compilation fut conduite avec l'aide de chercheurs japonais, anglais et américains résidant à Pékin. Elle fut achevée pour les trois premiers chapitres, un chapitre de principes généraux, un chapitre de droit des obligations et un chapitre de droit réel, avec comme rédacteur principal le japonais Matsuoka Yoshisada, dans le cadre de l'Office de la révision des lois institué en 1902. Et pour les deux chapitres suivants, chapitre de la parenté et chapitre de l'héritage, dans le même office, mais conjointement avec celui de l'étude des rites. Après l'établissement de la République, le chapitre sur la parenté fut révisé dès 1915. Mais la révision de l'ensemble du Code ne fut achevée et promulguée qu'en 1925. Un quart de siècle plus tard, en 1949, le régime de la République populaire abrogeait toutes les lois existantes sans rien leur substituer, à la seule exception de la nouvelle loi sur le mariage promulguée le 1er mai 1950, qui reprenait la réglementation édictée dans les zones communistes de la République des Soviets de 1931 et qui visait à libérer les femmes de leurs conditions traditionnelles d'infériorité. Par la suite, il est bien question de la rédaction d'un code civil dans le deuxième semestre de 1950 et dans le premier semestre de 1960. À chaque fois, l'entreprise est abandonnée sous le feu de la critique idéologique qui dénonce le droit bourgeois comme simple instrument au service de la classe dominante. Dans la Chine nouvelle, nul besoin d'un droit à moins qu'il ne soit un outil de la révolution, une arme de la dictature du prolétariat, ce à quoi pourvoit beaucoup mieux le bras armé du parti. Ce n'est donc qu'après 30 ans de total vide juridique qu'après la révolution culturelle, en juin 1979, sont promulgués un code pénal et un code de procédure pénale et qu'est lancé un programme de compilation de divers autres codes, dont le code civil promulgué en 1986. Aujourd'hui, le paysage du droit et des mœurs reste en Chine encore très marqué de traces des dévastations produites au siècle dernier par les diverses révolutions républicaines, prolétariennes et culturelles qui se sont succédées. Mais la restauration d'un état de droit est engagée. Outre le code pénal et le code civil, un code du droit économique a été promulgué le 26 août 1980, un code du droit social le 31 octobre 1993 et un code du droit administratif le 17 mars 1996. Sur quelle sorte de société pourrait déboucher cette restauration? La question est celle des chances d'une démocratisation du régime, des risques de gel de sa libération dans un autoritarisme post-totalitaire. Le siècle qui vient de commencer et qu'a annoncé en l'an 2000 le signe du dragon apportera la réponse. Je vous remercie.
J'ai l'impression ce soir d'avoir compris quelque chose, mais j'aimerais en avoir la confirmation de votre part. Je ne vous apprendrai rien en disant qu'en relation d'affaires, le contrat n'a pas beaucoup de poids en Chine et que le lendemain de sa signature, on recommence les négociations. Alors que la lettre d'intention, pour ceux qui ont eu la précaution d'en signer une à l'avance, a énormément de poids et qu'on peut toujours y faire référence lorsque le contrat ne fonctionne plus. Alors ma question est, est-ce que la lettre d'intention ne serait pas une sorte de traduction rituelle dans les affaires de tout ce que vous nous avez décrit tout à l'heure?
Eh bien, je vous remercie de cette information, je serai assez d'accord avec vous. Et en effet, ce que j'ai pu moi-même avoir comme écho de ce qu'était la façon dont on travaille en Chine répond bien à ce que vous dites, que le contrat apparaît comme beaucoup moins déterminant qu'il ne l'est dans les pratiques occidentales. Je pense que, en effet, c'est probablement lié ou peut-être lié à ce que j'avançais tout à l'heure comme hypothèse, en tout cas, n'est-ce pas, que le contrat dans la Chine ancienne n'était pas quelque chose qui, aux yeux en tout cas des penseurs politiques, méritait tellement de respect. Ce qui méritait de respect était ailleurs. Et d'ailleurs, j'ai le sentiment que ce qui compte beaucoup plus, c'est précisément les relations personnelles, bon, qui sont complètement déviées dans certains cas de dépérissement précisément du milieu social, complètement dévié en mafia, en relation, c'est pas ce qu'on appelle les Quincy, qui aboutissent à beaucoup plus des relations d'intérêt mafieux qu'autre chose. Mais normalement, dans la tradition chinoise, ce qui compte avant tout, ce sont les relations, en effet, intérêts individuels, les relations personnelles qu'on a avec les gens.
Deux questions. Première question, après la guerre mondiale, M. Esmin, professeur de droit ici à Paris, expliquait qu'on lui a proposé de faire une constitution là-bas et une partie de droit civil. Est-ce que vous pouvez peut-être m'expliquer quelque chose à ce point de vue-là? Deuxième question, qu'en est-il de la société civile en ce moment? Administrativement, il n'y a plus de passeport, on circule plus ou moins bien, il y a bien 75 millions de migrants dans la Chine intérieure. Mais alors, la société civile, comment progresse-t-elle, s'il vous plaît?
Alors, pour ce qui est de la première question, il se peut que M. Esmin, que je connais bien, ait en effet été sollicité, comme vous le dites. En tout cas, moi, il ne m'en a pas parlé. Et de toute façon, il y a eu en effet, comme je vous le disais, dans le dernier semestre, dans le deuxième semestre des années 50 et dans le premier semestre des années 60, des tentatives, des velléités de codification. Peut-être que c'est à cela que se rattachent des contacts qui auraient été pris avec M. Esmin, comme vous le dites. Pour ce qui est de la deuxième question, là je serais bien en peine de vous répondre. Ce que je sais d'expérience, une expérience qui s'arrête malheureusement à il y a, disons, 5-6 ans, puisque je n'ai pas pu, depuis à peu près 5-6 ans, refaire de voyage en Chine. Mais disons que pendant la période où j'y allais assez régulièrement, ce que je peux vous dire, c'est que, bon, il y a eu des périodes qui étaient des périodes extrêmement difficiles, avec une anarchie pendant la Révolution culturelle, par exemple, qui atteignait des sommets. À ce moment-là, vous savez bien que toute la jeunesse circulait sans billet d'un bout à l'autre de la Chine, dans les trains, sans rien payer, soi-disant pour aller répandre la bonne parole de la Révolution culturelle. Il y a eu d'autres moments où les restrictions, puisque vous parliez surtout de voyages, étaient beaucoup plus strictes. Moi, je me rappelle d'une époque, disons, dans les années qui étaient la fin des années 70, le début des années 80, où il fallait y avoir, disons, pour un étranger comme moi, une autorisation pour aller d'une ville chinoise à une autre, aujourd'hui, et avec bien des secteurs qui étaient tout à fait interdits aux étrangers. Aujourd'hui, autant que je sache, en tout cas, disons, pour la dernière fois que je suis allé en Chine dans les années 90, on circulait à peu près librement dans toute la Chine sans trop de problèmes. J'ai le sentiment qu'il y a eu d'énormes transformations dans, disons, ce qui est le régime de la société civile en Chine avec cette partie, enfin, disons, cette restriction, que tant que ne sont pas mises en cause les autorités du parti, les autorités du gouvernement, tant qu'il n'y a pas de tentative, disons, d'empiéter sur ce qui est considéré par le régime comme le contrôle de l'ensemble du pays, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Par exemple, autrefois, il n'était pas admissible même de prononcer simplement une parole critique à l'égard de n'importe quelle autorité du régime. Aujourd'hui, vous pouvez parler à peu près librement n'importe où, de n'importe quoi. Personne ne vous inquiétera. Mais si vous voulez créer un syndicat, si vous voulez créer une association, ça, c'est autre chose. Et vous avez bien vu ce qui se passe pour le Falun Gong actuellement. Je ne peux pas vous en dire plus. Je pense qu'il y a toute une littérature qui est régulièrement publiée sur ce sujet, qui est d'ailleurs fort intéressante, et énormément aussi de rapports de journalistes.
Monsieur Van der Merch, je vous remercie de votre exposé qui était très complet. Je n'ai pas de questions à vous poser, mais j'aimerais bien apporter deux compléments parce que je suis juriste de formation et j'ai quand même négocié pas mal de contrats en Chine. Donc, ce qu'on aperçoit en premier lieu, c'est effectivement le vide juridique qui existe en Chine. Et pour les interlocuteurs européens, il est très difficile de trouver le contact, car il y a évidemment la différence de langue et la différence de mentalité et l'absence de droit, ce qui est très difficile. Donc, c'est la parole donnée, ce sont les relations personnel qui compte, c'est la confiance mutuelle des personnes, c'est là-dessus que tout repose. Et si on a des difficultés dans l'exécution du contrat, c'est que c'est au niveau même des personnes que cela se passe. C'est cette précision que je voulais vous apporter à votre brillant exposé.
Y a-t-il, monsieur, en Chine, naissance d'une école psychanalytique ?
Oui. Enfin, d'une école, je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas, je me souviens d'avoir lu dans la presse, je vous dirais qu'il s'agissait de la presse Internet, la nouvelle de l'ouverture d'un cabinet de psychanalystes à Pékin, il y a à peu près 6 mois ou 1 an, quelque chose comme ça, et qui avait beaucoup de succès. Quand à ce qui est de Freud et de la psychanalyse, elle n'a été introduite qu'assez tardivement en Chine, ou en tout cas, disons, les œuvres de Freud ont été traduites, si je ne me trompe, dans les années 1925. 25-26, on a commencé à voir apparaître des traductions et des petits ouvrages sur la psychanalyse, mais qui n'ont pas eu tellement de retentissement. Et en tout cas, durant la période, disons, des 30 premières années du régime de la Chine populaire, la psychanalyse était tout à fait décriée et rejetée par, disons, les dogmes consacrés par le parti.
J'aimerais savoir, s'il vous plaît, comment vous pouvez qualifier la Chine d'état de droit, si l'on considère qu'un état de droit, ce n'est pas seulement la création du droit, mais bien son application?
Je ne l'ai pas qualifié d'état de droit, autant que je sache. J'ai demandé comment elle se déboucherait, comment, n'est-ce pas, sur quelle sorte d'état de droit allait déboucher la codification actuelle, c'est ce que j'ai voulu dire.
Ah, d'accord, merci.
Bien, nous allons rester là. Monsieur Van der Merch, merci beaucoup. Merci.